La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Alors ça fait déjà quelques émissions maintenant que nous entrons dans l'intimité de la vie de Joseph, le fils de Jacob. On a pu découvrir en filigrane de sa vie bien des aspects du profil du Messie qui doit venir. Les rabbins ont bien perçu que toute cette histoire, parfois un peu rocambolesque, cachait en réalité des détails très importants du plan de rédemption prévu par Dieu pour Israël et même pour toute l'humanité. Et la vision du Messie souffrant, de sa mort et même de sa résurrection commence à être perceptible dans ce récit historique. Entre les rêves de Joseph, entre ce qu'il a eu dans son enfance et ceux de ses deux compagnons d'infortune en prison, on a déjà découvert bien des choses. Que peut-on dire des rêves, cette fois, du Pharaon ?
Alors, il apparaît maintenant clairement que cette série de rêves qui interviennent dans des contextes fort différents prépare en fait Joseph à sa mission par excellence, celle qui est au cœur de sa vie et celle qui lui permettra d'ailleurs de laisser une trace significative dans sa famille et surtout dans l'histoire de l'humanité. Sa vocation finale n'était pas d'être un berger, un chef de clan ou même un guerrier, et encore moins un auteur important dans sa génération. Finalement, chaque pas de sa vie est marqué de l'empreinte de Dieu. Même quand un événement semble s'écarter de la voie royale, ou même vient contrecarrer la logique humaine, Dieu reste le maître souverain. Et c'est bien entendu a posteriori que nous lisons l'histoire, et tout nous apparaît après coup comme conduit par Dieu au bon moment. Mais pour Joseph et sa famille, les pas se font en réalité l'un après l'autre, par la foi, sans connaître l'issue finale et le sens véritable des choses. Et Jacob lui-même le réalise lorsqu'il dit, au terme de sa vie, en Genèse 48, verset 10, il dit ceci, « Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph le fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et il les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Alors étrangement, c'est quand Jacob ne peut plus voir de ses yeux à cause de la vieillesse qu'il affirme que c'est Dieu qui lui fait voir au-delà de toute espérance. Les rêves se succèdent dans un seul et unique but, préparer Joseph à sa mission ultime de rédemption pour les Égyptiens, mais aussi sa famille, c'est-à-dire Israël, et même tous les peuples des alentours, afin qu'ils ne meurent pas durant la sécheresse qui s'annonce.
Il nous reste justement à aborder le rêve du Pharaon. Que peut-on retirer de ce récit ?
Alors, c'est la première, mais sans doute pas la dernière fois qu'un souverain du monde est confronté à des rêves dont il n'a pas l'interprétation. Et les plus connus sont ceux peut-être de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ou même de certains rois de Perse par la suite. On les retrouve dans le livre du prophète Daniel. Et on peut penser que d'autres rois encore ont eu des rêves, ou bien que Dieu ait voulu révéler des choses particulières à des rois de ce siècle ou de ce monde. Et je me demande parfois si d'ailleurs des chefs d'État aujourd'hui ne sont pas aussi sujets à des insomnies ou à des rêves qui viendraient de la part de Dieu. Voilà en tout cas le Pharaon tourmenté par deux rêves que nous allons lire brièvement, en Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, le Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, la suite, bien sûr, nous la connaissons, les chansons, va dans ces circonstances se souvenir de Joseph et de la manière dont il avait favorablement interprété son propre rêve alors qu'il était en prison. Et il ressort en quelque sorte un peu le CV de Joseph et le présente positivement au Pharaon. Il y a quand même une nuance de taille dans l'enjeu de ce nouveau récit. Donner une interprétation au rêve de l'échanson ou même du panetier ne prêtait pas forcément à grandes conséquences. Joseph était déjà en prison et la mort du panetier n'a finalement pas pesé sur le sort du fils de Jacob. Avec le Pharaon, il pourrait bien en être autrement. Un mot de travers et Joseph finissait comme le panetier, pendu sans autre forme de procès. La première réponse de Joseph est pourtant formidablement risquée. Voyons plutôt au verset 15, toujours de Genèse chapitre 41. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon, et là c'est vraiment assez surprenant, en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alors, bien sûr, l'humilité de Joseph est louable. Elle montre une maturité qui dénote avec sa naïveté d'enfant quand, dans le temps, il racontait ses rêves sans vraiment avoir trop réfléchi à ses frères. Il donne en fait ici gloire à Dieu qui est le seul à pouvoir donner une interprétation claire au Pharaon. Mais il va plus loin. Pharaon est considéré par les Égyptiens comme une divinité en lui-même. Et Joseph n'hésite donc pas à affirmer rien de moins qu'il y a au-dessus de Pharaon un Dieu suprême dont il dépend totalement. Voilà un témoignage courageux dont nous devrions sans doute prendre exemple.
Et concernant le rêve lui-même, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, Joseph explique en quelques mots l'intention de Dieu pour les années à venir. Les deux rêves du Pharaon, les vaches grasses et les épis de blé, sont en fait un seul et même événement qui consistera en une période de prospérité de 7 années, suivie d'une famine terrible de 7 autres années. Une famine telle que les années de prospérité, d'ailleurs, seront comme englouties par ces années de sécheresse. L'interprétation des rêves n'est pas ici vraiment problématique. Mais la question qui se pose est celle de leur portée prophétique dans le contexte que nous avons déjà évoqué du Messie souffrant. À la suite du rêve du Pharaon, interprété par Joseph, voilà que le fils de Jacob se retrouve d'un seul coup propulsé au sommet de l'État, juste après le Pharaon. Et sa responsabilité est immense. Il faut organiser la gestion agricole de tout un pays comme l'Égypte, de telle sorte que les années de famine qui vont venir ne deviennent pas une catastrophe pour le pays, voire même pour le monde entier. Joseph a donc été préparé toute sa vie, dès son enfance, puis même chez Potiphar, et même en prison, à assumer finalement la responsabilité qui va désormais être la sienne pour sauver l'Égypte. La première chose qui me vient à l'esprit en lisant ce récit, dont la portée prophétique est indiscutable, c'est que le contexte égyptien est celui symbolique de l'humanité tout entière. Le salut de l'humanité dépend d'un Messie qui est issu de la famille d'Israël. Joseph est reçu par le Pharaon comme le sauveur de son peuple et Joseph est comme le témoin de Dieu, du Dieu d'Israël et de ses pères. Et nous savons que Joseph va effectivement mettre en œuvre une stratégie économique qui fera d'ailleurs école durant des siècles. Et je suis tenté de dire que Joseph commence là depuis un certain temps déjà à percevoir le plan de Dieu pour lui et pour toute sa famille, et même pour toute la famille qu'il a laissée en Canaan. Maintenant à la tête du pays d'Égypte, Joseph comprend le sens des rêves qu'il a eus tant d'années auparavant. Mais il s'ajoute au récit du drame familial que l'on devine entre Joseph et ses frères quelque chose de plus. Les commentateurs s'accordent pour dire que Joseph anticipe la venue de sa famille et prépare le moment où sa famille ne manquera pas, évidemment, de venir chercher de la nourriture. En attendant ce moment, Joseph devient l'instrument divin pour le salut de tous les peuples alentours. Personne ne peut trouver de la nourriture sans passer par Joseph, qui a reçu toute autorité de la part du Pharaon. Nous pouvons comprendre que le Messie souffrant est également le seul moyen donné par Dieu par lequel l'humanité puisse être sauvée. Mais le chemin de salut pour le monde passe par un Joseph qui a traversé la souffrance, l'épreuve et même le rejet de ses frères. De la même manière, le Messie souffrant, par le don de lui-même et son sacrifice, a revêtu l'autorité et le pouvoir de donner à tous ceux qui s'approchent de lui le salut. De donner de toutes les nations et de tous les peuples, tout homme peut trouver la nourriture pour son âme et vivre.
L'humanité trouve donc son salut dans le Messie issu d'Israël, un Messie qui, à l'exemple de Joseph, est passé par la souffrance et l'épreuve, notamment celle du rejet de sa famille et de ses frères.
En effet, et le récit prophétique va plus loin. Je disais il y a un instant que Joseph anticipe la venue de ses frères et il n'est pas animé d'un esprit de vengeance. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler les paroles mêmes de Joseph adressées à ses frères et qui donnent du sens à cette histoire. En Genèse 50, verset 19. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph aura donc soin des siens qu'il installera dans le pays de Goshen et les sauvera de la famine et de la mort. Et c'est à ce moment-là que les premiers rêves de Joseph, en fait, deviennent réalité. Les temps viennent également où le Messie prendra aussi soin de ses frères pour les amener au salut et les préserver de la mort. Dieu a permis que Joseph soit rejeté par ses frères, vendu pour être en définitive une source de salut pour toutes les nations alentour. Ce n'est qu'ultérieurement, alors qu'ils reviennent pour la seconde fois en Égypte, que les frères de Joseph reconnaissent enfin en lui, leur frère, leur sauveur et leur maître. La similitude avec l'histoire de Yeshua est frappante. Yeshua, lors de sa première venue, n'a pas été reconnu par ses frères. Bien au contraire. Ils ont même, selon un texte du prophète Ésaïe, été empêchés de le reconnaître. Leur rejet a été une bénédiction et une source de salut pour le monde entier. Mais en définitive, ils reconnaîtront celui qu'ils n'ont pas connu et qu'ils avaient méprisé et outragé. Et Paul souligne même que cette reconnaissance finale sera comme une résurrection d'entre les morts.
Eh bien voilà, a priori, comme ça, on ne s'attend pas forcément à ce que l'histoire de Joseph puisse contenir autant de surprises prophétiques et autant de profondeur dans l'annonce de ce qui va arriver. Et je lirai plus cette histoire dorénavant de la même manière ou avec le même regard. On arrive déjà à la fin de cette émission. On va poursuivre dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des textes de cette émission sur le site du Berger d'Israël, www.lebergerdisrael.org.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisrael.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.